Europe 1, 23h, 1h, la libre antenne. Sabine Marin.
Sur cette libre antenne d'Europe 1, un espace de dialogue qui vous est ouvert jusqu'à 1h du matin, si vous êtes seul, chez vous ou ailleurs. Si pour une raison ou pour une autre, les gens qui vous entourent ne peuvent pas vous apporter l'aide dont vous avez besoin, ne savent pas comment vous écouter, vous conseiller, appelez-nous au 3921 et entrez dans cette grande famille qu'est la libre antenne. Une famille qui n'est pas là pour vous juger. Il y a malheureusement suffisamment de gens dont c'est l'occupation principale dans la vie courante. À ce propos, connaissez-vous la différence entre jugement et observation ? Le jugement condamne et conclut une fausse vérité sur ce qu'il ne comprend pas, tandis que l'observation se base sur des faits, ne condamne jamais et est ouverte à toute vérité qu'elle ne comprend pas encore. Et le meilleur moyen de comprendre les choses, eh bien, c'est d'en parler librement. Alors appelez-nous au 3921 pour parler de tous les sujets qui vous préoccupent. Et si vous avez envie de réagir, de participer à l'émission par SMS, c'est simple, vous faites le 739-21 en commençant toujours par le mot « nuit ». Les SMS permettent quelquefois une vraie chaîne de solidarité quand vous apportez un soutien, un conseil ou quand vous proposez une mise en relation avec la personne qui passe à l'antenne pour pouvoir poursuivre le dialogue après l'émission. Au standard ce soir, vous trouverez Amandine et Hassan qui sont prêts à vous accueillir avec leur gentillesse habituelle. À la réalisation, vous ne le voyez pas, vous ne l'entendez pas, mais croyez-moi, il nous est indispensable. C'est Andreas Papadzian. Et la libre antenne, ça commence maintenant.
23h, 1h, la libre antenne sur Europe 1. Sabine Marin.
Alors pour tout vous dire, nous devions commencer cette libre antenne avec Caroline, mais Amandine me dit qu'elle n'arrive plus à joindre Caroline. Alors si vous êtes à l'écoute, Caroline, si vous nous entendez, vérifiez s'il vous plaît votre téléphone, Amandine va essayer de vous rappeler. Donc en attendant de récupérer Caroline, nous commençons dans un instant avec Pascal qui va nous parler d'amour ou pas. On va voir ça, à tout de suite.
Europe 1, la libre antenne. Sabine Marin.
Et on commence donc ce soir avec vous, Pascal. Bonsoir.
Bonsoir, Sabrina. Merci de me prendre à l'antenne.
Bienvenue.
Merci. C'est un entretien avec pour lequel je vais attacher beaucoup d'importance parce qu'en fonction de sa conclusion, qui est quelque part pour moi un dernier recours, je prendrai une décision par rapport à une femme que je connais depuis 5 ans.
Oula, vous nous mettez une grosse pression à tous les deux, là. On va y aller doucement, avant de prendre une décision catégorique. Ouais, racontez-moi un peu l'histoire.
Là, si je vais jusqu'à prendre cette démarche d'appeler la Libre Antenne, qui est une émission que j'écoute depuis très longtemps, sur laquelle j'ai été déjà intervenu pour la même femme, donc que je connais depuis 2013, qui elle-même avait rappelé aussi à l'époque Sophie Peters.
On est en famille, en fait, avec vous, alors.
On est en famille et je suis presque à la limite de prendre un abonnement.
On fait des forfaits au bout de 3 appels.
Je m'en souviendrai. Donc voilà, donc si je vais jusqu'à appeler ce soir, samedi soir, la Libre Antenne, et je l'appelle aussi par rapport à la qualité intrinsèque de votre émission qui permet aussi, je pense, à chacun des auditeurs dans ses cheminements dans la vie et d'avoir des conseils par votre antenne. Et bon, voilà, donc c'est une femme que je connais depuis 5 ans. Et en fait, autour de cette femme, il y a 2 problèmes en un. Donc le premier problème pour lequel je vous appelle, c'est que c'est pour moi mon idéal féminin. C'est quelqu'un de très bien, qui a vécu une vie avant avec une personne qui est le père de son fils, qui l'a trompé vraiment à plusieurs reprises. Et qui m'expliquait à l'époque, quand elle s'en était rendue compte, qu'elle avait fait quand même des démarches assez intrusives, à la limite de l'espionnite. Je vais pas être très long, mais très rapidement, elle a retrouvé un de ses portables dans la garniture intérieure de la portière de voiture. un portable dans la grange, parce que c'est quelqu'un qui était agriculteur, qui faisait des détournements de messagerie pour récupérer les appels de ses maîtresses, et qui récupérait dans ses poches des petits morceaux de papier qu'elle collait sous forme de puzzle dans un cahier pour reconstituer les messages. Donc ça, c'est ce qu'elle m'expliquait à l'époque, ce que je pouvais comprendre, parce que je pouvais admettre, eu égard au fait que c'était une femme qui était largement trompée.
Oui, elle a dû probablement beaucoup souffrir quand même avec un professionnel de la tromperie comme ça, là.
Oui, alors je sais bien que c'est le vocable que je vais exprimer, c'est un terme très à la mode, donc le terme de pervers narcissique, mais il avait été diagnostiqué en tant que tel à l'époque par le médecin traitant. Voilà, donc avec la manipulation, avec son fils, etc. Enfin voilà, je ne vais pas être très long là-dessus.
Donc tout ça pour dire que vous l'avez récupéré quand même à blesser cette femme.
Il y a un sérieux antécédent.
Oui. Comment est-ce que vous êtes rencontré que je me...
Je rencontre cette femme sur un site de rencontre. Voilà, et ça match assez rapidement. Moi, je sortais en 2010 d'un divorce donc avec mon ex-épouse avec laquelle j'avais vécu 17 ans. J'avais embrayé sur une relation entre guillemets pansement pendant 3 ans et je rencontre cette femme sur un site de rencontre en 2013. Dont je suis tombé éperdument amoureux, à tel point qu'au bout de 6 mois, j'ai proposé carrément de vivre chez moi. Bon, forcément, ça ne pouvait pas se faire, je dirais, de façon très facile, puisque bon, moi, j'ai un fils à l'époque qui avait 13 ans, elle avait un fils de 8 ans, elle habite à 80 km de chez moi, mais donc on consomme une relation, je dirais, assez sérieuse, pas à H24. C'est une personne qui a fait des marches pendant 5 ans de venir chez moi tous les week-ends, en faisant tous les week-ends 80 km de route, aller 80 km de retour.
Pourquoi pas l'inverse, Pascal ?
Pourquoi pas l'inverse ? Parce que les 2 premières années, nous étions, je dirais, littéralement harcelés par son ancien compagnon. Et je ne voulais pas, si vous voulez, rentrer dans un piège de quelque part, de violence un terrain sur lequel il voulait m'amener.
D'accord, je comprends. Donc c'était la liberté qu'elle vienne plutôt chez vous, quoi.
Voilà. Et voilà. Bon, après, moi, elle habite un appart. Moi, j'habite une maison un peu plus confortable. Et voilà. Et bon, elle y trouvait son compte. Voilà.
Et
moi, j'y trouvais aussi mon compte parce que je crois que j'ai été assez affecté de mon divorce parce que moi, au départ, je voulais pas me marier. Et mon ex-épouse, qui avait 10 ans de moins que moi, m'a demandé 10 fois en mariage. Je lui ai dit 10 fois non. La 11e fois, je lui ai dit oui, puisque dès le plus jeune âge, je suis quelqu'un qui ne croyait pas du tout au mariage. Et quelque part, j'ai été très affecté, non pas de la femme qui est partie, mais quelque part le fait d'avoir misé sur une relation consolidée par le mariage, avec une famille, un enfant, et qui, quelque part, a éclaté. Et moi, le fait d'avoir un enfant, un garçon de 11 ans, dans lequel on se retrouvait donc en garde alternée, j'ai fait un calcul très simple, j'ai dit, voilà, mon fils, entre 11 ans et 18 ans, donc sa majorité, au lieu de le voir 7 ans, j'ai le voir 3 ans et demi. Et c'est ça qui m'a vraiment affecté, plutôt.
Il faut dans ces cas-là miser sur la qualité de la relation.
Ouais.
Plus que sur la quantité, bien sûr, mais si le lien est sain et s'il est fort, ça compte beaucoup.
Je suis complètement d'accord avec vous, Sabrina.
Pascal, juste, ça fait 3 fois, je ne vous ai rien dit, mais mon prénom, c'est Sabine.
Sabina.
Non, Sabine. Il y a pas Sabine avec un
Sabine.
E à la fin.
Ah, je sais pas,
c'est juste que je m'y suis habituée depuis le temps, donc j'aimerais autant le garder.
Sabine.
Merci.
Non, ça, c'est mon côté un peu latin. Bon, voilà. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'avec cette personne que j'ai rencontrée, vous saviez mieux que moi que six premiers mois, la première année, c'est tout feu, tout flamme. Et forcément, après, on s'est retrouvé, grosso modo, à se disputer avec une fréquence de tous les 2 mois. sur des frivolités. Alors, elle a un caractère, j'ai un caractère.
Alors,
mais tout ça...
Pardon, juste vous dire un truc, Pascal. Ce que je dis souvent, c'est que quand on se rencontre, chacun met en avant ses qualités. Comme vous dites, tout feu, tout flamme. Or, les qualités, elles sont toujours compatibles entre elles. Ça, c'est facile. C'est quand on commence à apprendre les défauts de l'autre qu'il faut trouver si les défauts de l'autre sont compatibles ou pas avec les siens.
Ouais.
Et c'est là que quelquefois, ça se complique.
Alors, ce qu'il y a, c'est que j'étais pas... Enfin, moi, j'étais pas polarisé sur le contenu des défauts. Ce qui me posait problème, parce qu'à un moment donné, je suis quelqu'un qui essaie. Je sais que c'est pas facile, mais qui essayait d'avoir du recul. Et ce qui me posait problème, moi, c'était la fréquence des disputes. Et je me suis dit, donc à un moment donné, est entrée en moi cette petite musique qui consistait à me dire, mais Pascal, si tu t'engueules comme ça avec une fréquence de tous les 2-3 mois, c'est que c'est pas forcément la bonne personne. Quand bien même que ce soit mon idéal féminin, parce que bon,
alors revenons voilà. Là-dessus, c'est quoi, pourquoi l'idéal, dans quel domaine elle est l'idéal pour vous? Parce que c'est un terme fort, ça, de dire d'une femme elle est mon idéal. C'est physique, moral?
Déjà, le fait de dire c'était mon idéal féminin, en soi, je trouve que c'est déjà un luxe, parce que je pense qu'on peut passer sa vie sans rencontrer quelque part son idéal.
Mais oui, c'est fort comme mot.
Ouais, voilà, exactement. Et ça, j'en mesure toute la force. Alors, je suis pas quelqu'un qui arrive sur le marché entre guillemets de la séduction avec un cahier des charges. Sauf que y a des choses qui vous font vibrer. Et quand ces choses bout à bout, elles vous font vraiment vibrer, vous dites ah bah tiens, effectivement, c'est vraiment quelqu'un qui match avec ce dont j'ai besoin. Alors, ce dont j'ai besoin, je dis toujours, il faut toujours faire la différence entre ce que l'on veut et ce dont on a besoin.
Entre souvent, l'envie et le besoin, oui, c'est ça.
Voilà, et parfois, on se plante.
Il n'est pas bon d'avoir besoin de quelqu'un, il est sain d'en avoir envie.
Exactement. Et bon, voilà, donc... mais j'avais cette musique en moi qui me disait on peut très bien s'aimer et pas forcément être fait pour vivre ensemble.
Mais quand vous dites, pour vous, c'est beaucoup de s'engueuler tous les 2-3 mois? Parce que si je calcule bien, ça fait 4 fois par an, c'est pas non plus un rythme...
Oui, mais Sabine, en se voyant que le week-end, ça me semble beaucoup.
Mmh.
Et donc, mis bout à bout, ce qui s'est passé, c'est que on a commencé comme ça à faire des breaks parfois. En fait, on boudait. Alors, les 2 premières années, ça allait, quoi. Bon, on revenait très vite l'un vers l'autre.
Mmh.
Et moi, au bout de la troisième année... Troisième, quatrième année, je me disais c'est pas possible et j'ai fait ce qu'on peut appeler un acte manqué. À un moment donné, on s'est retrouvé à breaker 2-3 mois et je me suis dit bon bah ok, c'est pas une femme qui est faite pour moi et donc je me réinscris sur un site de rencontre et je vois si quelque part je peux pas trouver une personne qui me correspond mieux, parce que bon, moi, à mon âge, à presque 56 ans, une des valeurs que je recherche, mais je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs à cet âge-là qui recherchent cette valeur, c'est la sérénité. Je pars du principe qu'une relation amoureuse, elle doit apporter de la valeur ajoutée.
Un plus, c'est pas un moins.
Elle doit apporter du bénéfice, mais quand je parle de bénéfice, c'est sans être boutiquier.
Oui, bien sûr, mais j'entends bien.
Si au bout du compte, c'est s'engueuler, se déchirer, et vous savez mieux que moi, en ce temps-là, le temps passe. Je veux dire, quand on a 30, 40 ans, on a quelque part un boulevard temporel devant soi, et on peut se dire, bon voilà, bon, ça va pas que celle-ci, je verrai, ou ça va pas que celui-ci, je verrai, et puis on peut changer. Mais quand on commence à se rapprocher de la cinquantaine, de la soixantaine, même si je vous l'accorde, on peut tomber amoureux à 70 ans, à 80 ans, c'est pas le souci, mais on a quand même quelque part, à partir de 50 ans, cette petite pression temporelle.
On n'a plus de temps à perdre, en fait, c'est ça que vous voulez dire, Pascal.
Exactement. Ouais. On n'a plus de temps à perdre, et surtout, on n'a plus le temps de se tromper. Donc, j'ai breaké, et j'ai voulu rencontrer d'autres personnes, et là est apparu le phénomène d'espionnite. C'est-à-dire que que je me suis... Donc, en fait, c'est une personne qui se faisait passer sur les sites de rencontres de façon anonyme pour une autre personne.
Tenez, vous êtes en train de me dire que, du coup, votre compagne, ayant des doutes, a commencé à vous espionner.
Exactement.
C'est-à-dire que vous l'avez remise dans la situation qui l'avait tellement fait souffrir quelques années avant, quoi.
Exactement.
Mais oui.
Exactement. Enfin, dans la même situation... pas avec la même violence, c'est-à-dire que elle a eu des attitudes où moi je m'étais dit c'est fini, où je pensais que c'était fini, et j'utilisais quelque part ce contexte pour dire bon bah ok, bah si c'est fini, pour oublier cette personne, faut que je tombe dans les bras de quelqu'un d'autre.
Mais vous lui aviez pas dit à elle que c'était fini?
Non, mais...
Donc vous avez un peu joué sur les deux tableaux, là.
Et parfois, j'avais l'impression qu'elle me le disait, mais sincèrement.
Oui, mais ça n'avait pas été acté. Donc pour elle, il n'y avait pas de rupture, en fait.
Mais quand vous avez quelqu'un qui vous dit au téléphone, bon, voilà, on en reste là. Voilà, et comme moi, je suis quelqu'un qui, quelque part, a été aussi affecté par mon ancienne séparation, en fait, il m'en fallait pas grand.
Oui, vous êtes un peu à vif tous les deux, là, sur ce terrain-là, j'ai l'impression.
Ouais.
Alors, du coup, comment ça se passe? Vous êtes fait piéger par un faux profil?
Oui, donc, faux profil. Donc, c'est quelqu'un qui imprime les conversations que j'ai eues. Donc avec ce faux profil, et qui a toujours cette propension à vouloir m'apporter des preuves, comme quoi, j'ai discuté avec quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui, ce que je peux comprendre, hein, mais ce que je n'aime quelque part, que je n'aimais pas, qui part du principe que à partir du moment où j'échange des discours, des entretiens sur un site de rencontre, voire sur des SMS, il y a forcément tromperie.
C'est quand même l'objectif, non?
Ouais, mais moi je pense que sincèrement, quand j'ai eu des discussions, vous savez, sur des sites de rencontres, vous pouvez avoir des discussions avec des personnes où on parle quelque part de la relation homme-femme, sans forcément aller déclencher derrière un entretien téléphonique ou une rencontre dans un café. Moi j'ai eu, voilà, sur des sites de rencontres.
Oui, c'est vrai aussi. Je sais que très souvent, des relations deviennent juste des relations de complicité, de conversation. Sauf que, avouez quand même que quand on va sur un site comme ça, l'objectif, c'est pas, ouais, de se faire une copine ou une amie, c'est de rencontrer quelqu'un.
Ouais. Voilà. Et ça, je veux bien comprendre. Donc, j'aime cette femme, donc je suis revenu plusieurs fois vers elle.
Attendez, que ça soit bien clair. Est-ce qu'il y a eu quelque chose avec quelqu'un d'autre dans cette période-là?
Non.
Pas du tout.
Non.
Et qu'est-ce qu'elle vous a dit quand elle vous a mis par écrit la preuve sous les yeux?
C'était... Ah ben c'est à partir du moment où je suis sur un site de rencontre, tu m'as forcément trompé.
Oui.
Voilà. Mais voilà, pour aller plus rapidement sur ces histoires-là, c'est que en fait l'espionnite est partie crescendo. Parce que ça a été, je vous passe les détails, mais on s'est disputé plusieurs fois, on a breaké plusieurs fois, à un moment donné on a breaké pendant 3 mois. Elle a rencontré un homme à qui il a eu une relation, j'ai rencontré une femme avec qui j'ai eu une relation. Et ce qu'il y a, c'est que quand vous aimez quelqu'un, je me suis fendu dans un SMS en lui disant voilà, tu me manques. Elle m'a répondu, moi aussi, toi aussi, et puis on s'est retrouvés, mais il y avait toujours, de façon larvée chez elle, la question, et elle me disait, ouais, mais moi j'ai besoin que tu me rassures.
Ben oui, bien sûr.
Et je fais, ok, elle dit, oui, quand on s'est connus en 2013, au bout de 6 mois, tu m'as dit, tu m'as proposé de vivre avec toi, tu me le dis plus, etc. Et là, j'étais sincère avec elle. Je dis, ouais, moi j'ai peur par rapport à la fréquence des engueulades, par rapport à ce qui s'est passé. Et puis, ce que je ne lui ai pas dit, c'est que si je n'ai pas eu, moi, l'impulsion, à un moment, pour lui dire, viens habiter chez moi, c'est parce que, quelque part, j'avais aussi peut-être cette musique où j'ai, soit j'étais méfiant, ou alors peut-être que je ne l'aimais pas autant que je pouvais le penser. Mais après, je me dis, voilà, ça fait quand même 5 ans que je suis avec cette personne. On a eu des passages difficiles, et quand bien même on est resté ensemble. Et voilà. Et le dernier épisode, qui m'amène un peu à la fin du premier point, c'est que il y a une quinzaine de jours, donc grosso modo depuis un an, ça se passe bien. Et elle me dit, alors j'ai une discussion avec elle. Par exemple, elle n'admet pas. Moi, je suis quelqu'un qui est chez moi seul, qui part au boulot seul, qui travaille dans un bureau seul, qui repart chez moi, qui repart dans les transports en commun seul. Voilà. Mmh. Et je lui dis, tu sais, socialement, on ne peut pas se contenter que du périmètre professionnel. Je ne vois pas où est le problème, un soir, d'aller boire un verre dans un bar. Et puis, et voilà. Et ça, elle n'admet pas.
Mais oui, parce qu'elle se sent en danger tout le temps. Elle est en insécurité, voilà. Bien sûr. Pour elle, c'est comme une toile de fond. C'est en permanence.
Voilà. En 2015, je devais changer de voiture. J'ai acheté un cabriolet d'occasion. Forcément, un cabriolet, c'est un aspirateur Anana. Et je l'avais acheté pour ça.
Ah, voilà. J'adore l'image. Oui.
Oui. Non, mais voilà. Et c'est ce qu'elle me dit.
Et oui, parce qu'une fois de plus, parce que c'est logique. Elle a ça en toile de fond tout le temps. Elle interprète ouais. Chaque situation avec ce filtre-là. De la peur d'être trompé.
Je vous donne voilà. Je suis un gars qui fait 1m80, qui pèse 110 kilos. Je fais une démarche d'aller voir une psychologue qui traite notamment les problèmes de nutrition, qui fait de l'EMDR, qui fait de l'hypnose, etc. Mm-hmm. Je lui en parle. Je dis, tiens, je vais consulter cette personne-là. Il y a de très bons avis voilà, sur le net, sur cette personne-là. Ok, donc je consulte la psychologue, donc très bien, donne de bons conseils sur la gestion du stress, de l'alimentation, etc.
Oui.
À ce moment-là, on s'était discuté. Et la deuxième rendez-vous que je prends avec la psychologue, je lui évoque aussi ma relation avec cette personne, parce que j'étais en pleine dispute. Et la psychologue habite à 90 km de son domicile. Et elle me dit, elle s'appelle comment ? Donc je lui donne le prénom. Ah, elle dit, elle m'a envoyé un SMS.
Ah bon ? Ouais, ça paraît bizarre.
Oui, parce qu'elle veut faire consulter son fils, etc. Donc je suis en relation avec une femme psychologue, elle veut la voir.
Oui, c'est un peu intrusif, oui.
Ah oui, alors qu'on a, et c'est ce que m'a dit la psychologue, elle dit, elle lui a même posé la question, elle m'a dit, vous habitez à 90 km, qu'est-ce qui fait que vous voulez prendre rendez-vous chez moi, etc. Et en fait, voilà, elle dit, bon, là, vous avez eu de bons échos sur le net, donc voilà. Bon,
est-ce qu'elle a accepté la psy ?
Ouais, parce que c'était une consultation pour son fils. Pour faire un point sur le fait d'éventuels traumatismes qu'il aurait vécu plus jeune. Son fils, il a 16 ans.
Oui, mais les histoires se croisent, donc c'est compliqué. Ouais.
Voilà, mais si vous voulez, moi, ce que je retiens quand même, c'est quand même le côté intrusif, quoi. Et donc, là, dernièrement, donc, quand j'ai eu une conversation avec elle au téléphone en lui disant, ben voilà, je vois pas où est le souci qu'un gars aille voir un coup tout seul, ou même avec des copains, oui, mais non, mais si tu fais ça, c'est que, ok. Et il y a 15 jours, elle me dit « Bon, écoute, je passe chez toi. » Et en fait, elle me dit « Oui, je sais que tu me mens. » Attends, je ne vois pas de quoi tu me parles. » Et elle me parle de SMS que j'ai envoyé début 2017. Donc, à son énoncé, effectivement, je me rends compte qu'elle a complètement raison. Elle me ressort des SMS que j'avais eu avec une personne alors qu'on était en break. Et je me suis rendu compte qu'en fait, que, comme je l'accueille chez moi tous les week-ends, qu'elle m'avait volé un ancien portable qui était là, dans une armoire. Elle s'en est emparée, elle l'a fait déloquer, c'est-à-dire qu'elle a...
Elle a fouillé, quoi.
elle a fait craquer, elle a ressorti les SMS et elle est recherchée des histoires de il y a 2 ans. Alors que tout se passait bien. Alors depuis 1 an, tout se passait bien. On part en vacances régulièrement. Je l'emmène en vacances avec son fils. Avec
non, Pascal, pardon, mais ça ne se passe pas bien. Pour elle, ça ne peut pas se passer bien si elle réagit comme ça. Ouais. Elle est en grande souffrance pour réagir comme ça. Si ça se passait bien, ça ne lui viendrait même pas à l'esprit d'aller chercher des trucs pareils.
Et pour terminer sur ce sujet-là, dans les échanges que j'ai pu avoir sur un site de rencontre au moment où on avait breaké, vous savez, vous discutez avec une personne sur un site de rencontre, vous discutez avec une personne et tout d'un coup, vous n'avez plus la main sur sur le message et c'est elle qui répond à votre place et qui écrit « Je suis donc la femme de Pascal ». Vous pouvez me contacter sur mon portable. Et elle met donc sur le site de rencontre son téléphone portable. Nous sommes ensemble depuis 4 ans. Grosso modo, elle avait pris l'ensemble de mes mots de passe, compte Google, etc. etc.
Oui, donc, vous êtes sous haute surveillance, quoi.
Complètement.
Et oui, c'est l'attitude d'un animal blessé, hein. C'est ça.
Donc, comme n'importe quelle personne, j'en parle autour de moi. Et on me dit, mais Pascal, ok, t'es pas forcément blanc comme neige. D'accord. Mais il y a un réel décalage entre ce que tu peux faire et qui est pas forcément bien perçu et le niveau de réaction.
Mmh. Oui.
Et le niveau de réaction. Et la dernière discussion que j'ai eue avec elle, je lui ai dit, écoute, si tu penses tout ce que tu peux penser de moi, on a eu des breaks. À un moment donné, oui, c'est vrai. J'ai discuté avec des personnes sur un site de rencontre. Oui, j'ai eu des échanges SMS. Maintenant, moi, je lui ai fait des mails de 3 pages en lui expliquant à quel point je tenais à elle, etc. Ok. Je crois qu'en 5 ans, je lui ai montré que je l'aimais. Mais je lui ai dit, maintenant, il faut que tu te poses une simple question. Je lui dis en toute sérénité, et je lui dis, je vais raccrocher et je te demande simplement de réfléchir à cette question-là. Qu'est-ce qui peut faire, en fonction de tout ce que tu penses sur moi, que tu puisses envisager un avenir heureux avec moi?
Oui.
Voilà. Et j'ai raccroché. Et c'est seulement après que je me suis rendu compte qu'elle avait, volé mon portable. Et qu'elle avait soutiré tous les SMS de il y a 2 ans. Donc forcément, elle a soutiré des SMS d'il y a 2 ans et elle a eu une réaction
hors contexte, quoi, bien sûr.
Hors contexte, exactement. Oui, oui. Hors contexte. Enfin voilà, ça c'était pour vous dresser le
portrait, bien sûr. Mais on est toujours dans le même schéma, c'est ça. Elle surréagit parce que sa blessure est grande ouverte.
Et à un moment donné, je lui dis, mais tu veux être rassuré, concrètement, qu'est-ce que je peux faire pour que tu sois rassuré?
Mais
elle me dit, mais par exemple, c'est que tu ne mets pas de code à ton téléphone portable.
Non, mais malheureusement, Pascal, vous avez bien compris que c'est bien plus profond que ça. Parce qu'elle va monter le curseur au fur et à mesure, ça sera jamais assez. Ouais. La seule solution pour qu'elle soit rassurée, c'est qu'elle se fasse soigner. Qu'elle se prenne en main, qu'elle aille soigner cette blessure d'abandon qu'elle a, qu'elle comprenne ce qui se passe et qu'elle cicatrise, parce que sinon, ça sera sans fin. Quoi que vous fassiez, ça n'ira jamais.
Ouais, et alors, je lui ai dit, avec toutes les précautions possibles, toute la diplomatie possible, et surtout avec toute la bienveillance possible, tu sais...
Mais oui, parce que ce n'est pas une accusation, c'est pour l'aider. Elle a besoin d'aide.
Et elle m'a écouté.
Oui.
Mais elle est allée faire 2-3 consultations au CNP, mais
c'est tout.
En 2 mots, elle m'explique que c'est elle qui a raison.
Ouais.
Alors, je suis quelqu'un qui n'est pas sorti, je suis sorti avec une quinzaine de femmes. Pas beaucoup dans ma vie. À chaque fois.
Une quinzaine, c'est correct, hein, quand même.
Attendez, si vous comptez l'adolescence, ça fait pas beaucoup.
Je pense qu'il y a des auditeurs qui vont faire des bons de l'autre côté, mais bon.
Non, et quand je suis sorti, voilà, c'est des belles relations. C'est entre 15 ans et 55 ans, voilà, en 40 ans, voilà, j'ai peut-être rencontré une dizaine de femmes qui étaient vraiment de très belles femmes. Mais je suis quelqu'un qui ne plaît pas aux femmes. Mais quand j'en rencontre, voilà, j'en ai rencontré une dizaine, très belles. Mais globalement, je suis pas quelqu'un qui plaît aux femmes. Et d'ailleurs, je suis parti en vacances, là, je reviens de vacances une semaine, et je me suis mis sur un site de rencontre, et là, j'ai fait une petite statistique sur 60 demandes d'entretien, j'ai eu 47 refus. Et le deuxième problème sur lequel je suis confronté, c'est que, et ça m'est arrivé par le passé, donc avec ma compagne ou mon ancienne compagne, c'est que, étant une très belle femme, très très bien, très gentille, très voilà, et c'est quelqu'un de vraiment voilà, on n'aime pas les gens comme ça par hasard. J'ai une propension par rapport à mes échecs sur l'environnement de séduction à revenir vers elle comme un aimant, mais avec ce côté à Jean-Paul Mot maladie fespionite qu'elle a, et tout le monde me dit autour de moi, mais Pascal, part en courant, quoi. Et tout le monde a le discours Sabine que vous tenez, c'est-à-dire que ça ne sera jamais assez, elle ne sera jamais rassurée, et donc, comme beaucoup de personnes dans ces cas-là, je me retrouve avec la crainte du vide, de la solitude, et de la question fondamentale, qui pour moi est une question fondamentale, quand on a 55-56 ans, comment on gère sa vie sentimentale dans les 10 ans à venir. Alors je sais qu'on peut dire, oui, mais voilà, tu peux rencontrer quelqu'un très bien demain, après-demain, etc. Mais c'est pas une réponse banale qui aujourd'hui ne me convient pas. Donc ma question définitive, en fait, voilà, c'est ça, est-ce que, pour ça je vous appelais aussi, c'est est-ce qu'il faut que je prenne le parti de dire, voilà, c'est fini avec cette personne-là, parce que ça m'amène de toute façon à un moment ou à un autre dans le décor. Et ce que me disait ma psychologue, que j'avais consultée surtout pour les problèmes de nutrition, de régime, etc., elle m'a dit, c'est que vous allez repartir, ça va durer 6-7 mois, et ça va repartir comme en 14. Et elle dit, entre-temps, c'est vrai que vous allez perdre du temps.
On va se poser cette question, mais pas tout à fait de la même manière, si vous le voulez bien, Pascal. Mais on fait d'abord une petite, une courte pause, et je vous récupère dans un instant.
Okay.
Merci, à tout de suite.
Europe 1, la libre antenne. Sabine Marin.
Et pour prendre la parole sur cette libre antenne, continuez à nous appeler au 3921. Amandine et Hassan attendent vos appels. Pascal, on va reprendre cette conversation. Vous êtes toujours là ?
Oui, toujours.
Alors, il y a plusieurs choses qui me sont venues à l'esprit là pendant cette pause. La première, vous me disiez juste avant la musique que beaucoup de gens vous donnent leur avis. Et comme souvent, vous savez, quand les autres donnent leur avis, leur opinion sur une histoire d'amour, c'est leur propre projection, en fait. Donc ça ne sert pas à grand-chose parce que vous aurez toujours quelqu'un qui vous dira bleu, l'autre qui vous dira rouge et le troisième qui vous dira vert. Et vous n'êtes pas beaucoup plus avancé avec ça.
Ça c'est que là, je peux me permettre, les avis sont assez convergents.
Oui, parce que c'est un peu facile aussi. Ça, tout dépend comment les choses sont présentées. Après, c'est une autre histoire. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est que quel que soit ce que la vie met sur notre chemin, chaque expérience est là pour nous apprendre quelque chose. Il serait peut-être intéressant aussi de réfléchir à vous. Qu'est-ce que vous avez à apprendre de cette expérience-là ? Est-ce que vous êtes complètement rassurant aussi dans votre façon d'être ? Est-ce que le côté « je veux construire avec elle, mais dès que ça ne va pas, je retourne sur un site » est-ce que c'est un fonctionnement qui vous convient ? Est-ce que c'est vraiment ça que vous avez envie de faire ?
Non, c'est de la peur. C'est de la peur, c'est-à-dire j'ai quelqu'un qui m'abandonne, je suis dans le sentiment d'abandon, qui à mon avis trouve son écho dans mon divorce. Et parce que bon, dans mon divorce, c'est mon ex-épouse qui est partie, mais dans 70% des cas, c'est, c'est la femme qui prend la décision, parce que l'homme n'a pas forcément le courage de le faire. Sentiment d'abandon, donc je suis quelqu'un qui veut se rassurer, mais au quart de tour, quoi, qui supporte pas d'être abandonné, de rester seul. Et donc, je vais chercher forcément la relance, la relation pansement.
Et voilà, et vous comprenez bien que face à quelqu'un comme cette jeune femme, cette femme qui est extrêmement blessée sur ce sujet de la trahison, ça colle pas. Il y a quelque chose il y a quelque chose qui se heurte là dans vos deux histoires. Et il y a peut-être chacun un apprentissage à faire. Maintenant, vous me disiez en commençant cette conversation, oui, je prends une décision là tout de suite en fonction de ce qu'on va se dire. La bonne décision, elle ne se prend que quand on connaît soi-même ses valeurs, quand on se connaît assez pour savoir ce qu'on veut. C'est pas moi qui vais vous dire aujourd'hui il faut rompre ou il faut pas rompre. C'est à vous de connaître vos valeurs pour savoir vraiment ce que vous voulez. Il y a deux scénarios possibles. Soit vous acceptez qu'elle ait besoin systématiquement d'être rassurée, vous l'incitez vraiment à faire un travail sur elle et vous arrivez à faire avec, parce que vous m'avez quand même dit plusieurs fois, elle est la femme idéale pour moi. Soit elle est la femme idéale, mais pour vous c'est insupportable, et là la question se pose plus. Vous voyez, on a plusieurs SMS qui arrivent ce soir pour vous. Quelqu'un qui dit, quand il n'y a pas de confiance, il n'y a pas d'amour. Bon, c'est un peu catégorique, je pense que les choses ne sont jamais aussi noires ou blanches que ça. Quelqu'un d'autre qui nous dit, Pascal doit regagner sa confiance, elle a besoin d'aide. Mais est-il vraiment rassurant ? Ben oui, comme vous êtes aussi un peu en insécurité, il y a deux insécurités qui se rencontrent dans cette histoire en fait. Il y a une femme qui nous écrit aussi, qui dit « Je suis une femme, j'ai eu une liaison de 11 années. Il m'a trahi la deuxième année, j'ai passé les 9 autres à le piéger. Il m'a toujours prouvé par A plus B qu'il était sincère, mais la blessure est toujours là. Et ça s'est terminé par une rupture.
Ouais. »
Quelqu'un qui nous dit aussi « Pascal n'a pas l'air très rassurant. Il reste avec cette femme par peur du vide. » Alors, on a commencé à aborder ça effectivement avant de faire une pause. Est-ce que c'est vraiment uniquement la peur du vide qui vous fait revenir régulièrement près d'elle ? Je suis pas si sûre que ça, moi.
Ah, vous savez, Sabine, quand à un moment donné on fait une certaine introspection et qu'on se dit j'ai peur du vide, j'ai peur de rester seul, j'ai peur de l'abandon, j'ai peur de pas retrouver quelqu'un. Où j'ai peur de retrouver quelqu'un qui ne correspond pas en fait à mes critères. Là, j'ai cité 5 peurs. Mais il est où l'amour là-dedans ? On n'est pas avec quelqu'un, on ne reste pas avec quelqu'un par peur.
Non.
Donc, j'entends ce que vous dites, mais entre cette personne qui a toujours besoin d'être assurée, et je renvoie vos propos, ça ne sera jamais assez.
C'est un gouffre, c'est un puissant fond, en fait.
Moi qui, à un moment donné, peux se dire, bon, voilà, mais ça, je l'ai déjà fait. Quand ça allait bien, comme là, il y a depuis un an, ça va bien, mais à un moment donné, elle est seule dans la maison, elle regarde dans les meubles, elle trouve un portable, qui n'est pas le sien, qui est le mien, elle le prend de vers elle, elle fait 90 km avec ce portable, elle rentre chez elle, il y a un mot de passe, elle va dans une petite boutique du coin.
Oui, non, j'ai bien compris, parce que ça va très loin, bien sûr.
En fait, je me dis, voilà, imaginons que demain, je fasse tout pour la rassurer. Imaginons que demain, je lui dise, bon, ok, bah, on fait notre vie ensemble. Cette espionnite va aller jusque où ? Parce que ce qu'elle m'expliquait aussi dans son ancienne vie, c'est que quand elle se sentait trahie par son ancien compagnon, elle allait faire des scandales sur son milieu professionnel. Enfin, moi, j'ai pas envie de ça, quoi. Et
oui,
la problématique,
c'est
que
une jalousie maladive, ça.
Mais mis bout à bout, moi qui pensais que la réaction qu'elle avait était démesurée, mais à la démesure de la trahison qu'elle avait subie, je me rends compte qu'il est en train de refaire le même schéma quelque part avec moi. J'accorde que je n'ai pas été rassurant, mais au bout du compte, quelqu'un qui a un peu de recul, c'est-à-dire bon, ok, mon compagnon, on a breaké, il a échangé par SMS, etc. C'est pas très normal, mais oui, je l'avoue et je le reconnais. Mais il n'y a pas eu de tromperie, quoi.
Non, mais le problème, c'est qu'il y a deux blessures qui ne sont pas compatibles. Quand je vous disais tout à l'heure, toutes les qualités vont bien ensemble. Mais il faut voir quand les défauts sont compatibles. Là, vous avez une blessure d'abandon qui se heurte de son côté à elle à une blessure de trahison.
Et ça, je vous l'ai déjà dit. Hein.
Et aucun n'est rassurant pour l'autre, en fait, dans votre relation.
Et c'est pour ça que je me demande si ça peut matcher un jour, quoi.
Une fois de plus, c'est à vous de connaître vos limites pour savoir quelle décision prendre. J'entends bien que là, ça ne vous convient pas tellement comme relation pour l'instant.
Ce que je me dis, Sabine, c'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui est maître de tout, c'est le temps. Si au bout de 5 ans, tout ce que je vous ai raconté, je me retrouve sur l'antenne d'Europe 1 à vous expliquer mes déboires.
Le seul problème, c'est que elle ne veut pas se soigner, se prendre en charge. Soigner cette blessure, cicatriser pour aller mieux, tant qu'elle ne fera pas ça même pour elle-même, elle sera mal avec elle-même. Et quand on est aussi mal avec soi, on ne peut pas être bien avec les autres. C'est ça qui est compliqué.
Donc c'est une impasse.
Dans l'état actuel des choses, je le crains, mais... Chacun peut évoluer, chacun peut travailler sur soi aussi, mais si elle n'en a pas envie, vous ne pouvez pas l'obliger. Mais dans ces cas-là, elle reproduira le même schéma avec quelqu'un d'autre. Elle a tellement peur, elle est tellement en cette blessure-là, qu'elle ne voit les relations qu'à travers ce filtre-là, de la peur et de la jalousie. Et comme vous avez aussi besoin d'être rassurée, c'est compliqué.
Ouais, enfin, j'ai besoin d'être rassuré.
Maintenant,
j'ai besoin d'être rassuré. C'est sur le fait que demain, est-ce que je peux retrouver quelqu'un qui me convienne vraiment? Parce que là, aujourd'hui, je me pose la question. Mon petit Pascal, soit tu refais des efforts pour vraiment construire quelque chose avec la petite expérience que j'ai. Soit je prends le verso de la carte et je finis ma vie seule. Quoi. Mais alors, c'est une question pour moi aujourd'hui qui est fondamentale. Hein.
On a pas mal de réactions qui sont arrivées par SMS que je vous lirai après les infos. Mais ouais. Je trouve que vous êtes quand même un homme qui a rencontré pas mal de femmes. Vous ne dites pas beaucoup, mais une quinzaine d'histoires sérieuses, c'est quand même pas rien. Vous faites un travail sur vous avec une thérapie, avec de l'hypnose, avec plein d'outils, ce que je trouve déjà assez formidable. Vous connaissez bien, je ne vois pas très bien pourquoi vous resteriez seul. Vous avez fait chemin, vous allez peut-être rencontrer d'autres gens, que ce soit des hommes ou des femmes pour des amitiés ou des histoires d'amour. On parle ça juste après les infos si vous le voulez, mais je me demande si vous n'êtes pas en train de vous créer une peur d'un avenir qui n'est pas forcément le vôtre. Je ne suis pas si sûre que ça qu'il n'y a plus personne derrière. On fait une petite pause pour les infos, Pascal, et on en parle juste après. Merci de votre patience, à tout de suite. Vous écoutez Europe 1, il est minuit. Et c'est Sophie Tussaud qu'on retrouve pour un nouveau point sur l'info. Bonsoir à vous, Sophie.
Bonsoir Sabine, bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce soir, la visite marathon d'Emmanuel Macron au Salon de l'Agriculture. Participation en hausse pour l'acte 15 des Gilets jaunes. Et puis, la première victoire du 15 de France dans le tournoi à destination.
Europe 1.
La visite fleuve d'Emmanuel Macron au Salon de l'Agriculture vient juste de se terminer. Le président a arpenté durant près de 14h30 les allées de la plus grande ferme de France, serrant les mains et répondant aux sollicitations des visiteurs et des agriculteurs. Et avant de déambuler, Emmanuel Macron a prononcé un discours d'inauguration, une allocution d'une heure durant laquelle il s'est prononcé pour réinventer la PAC et s'est présenté en défenseur du monde agricole.
Je sais l'indignation, la souffrance que beaucoup ressentent face à ce qu'on appelle désormais l'agribashing. Mais je veux le dire sur ce sujet à tous et toutes. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un de plus sensible à la maltraitance animale qu'un éleveur, parce qu'il vit avec ses bêtes. Parce que celui qui se réveille la nuit quand il y a un velage, celui qui se lève avec l'anxiété quand la maladie arrive, c'est l'éleveur. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi anxieux pour le changement climatique, le réchauffement, qu'un agriculteur, parce que celui qui tremble devant la sécheresse, qui vit les conséquences de l'inondation, c'est l'agriculteur. Il n'y aurait pas d'un côté des consciences du monde qui ne vivraient pas au milieu de lui, et de l'autre ceux qui seraient les pieds dans la glaise et qui seraient contre le changement.
Emmanuel Macron au micro de François Geffrier. Participation en hausse pour le 15e samedi de mobilisation des Gilets jaunes. 46 600 personnes ont été comptabilisées partout en France par le ministère de l'Intérieur. C'est 5 000 de plus que la semaine dernière. Une mobilisation marquée par des heurts et des actes de vandalisme à Clermont-Ferrand. À Paris, où malgré quelques tensions ce soir pour disperser les manifestants au Trocadéro, le défilé s'est déroulé dans le calme. Louise a participé à tous les samedis de manifestation à Paris et elle nous explique comment la mobilisation s'est transformée au cours des semaines.
Je dirais ce que cherche le gouvernement, c'est à décrédibiliser ce mouvement profond en France, hein, qui se lève de partout. Donc à un moment que le gouvernement passe son temps à insulter et à décrédibiliser un mouvement pacifique et populaire, et aujourd'hui vous le voyez ici, il n'y a aucun propos ni raciste, ni homophobe, ni rien du tout, chacun a ses opinions. Vient défendre, je crois, finalement, ce qui nous rassemble tous, c'est qu'on veut que ces élites s'occupent du peuple français, s'en occupent, se préoccupent de ce peuple qu'ils ont laissé crever depuis 40 ans. Il n'y a plus d'usines dans les campagnes, les agriculteurs se suicident, les familles sont toutes en train d'exploser. Bon, bah, c'est dû à quoi, ça? C'est dû à des hommes politiques qui font pas leur job et on veut les changer.
Un témoignage recueilli pour Europe 1 par Pauline Jacquot. Difficile, voire impossible, acheminement de l'aide humanitaire au Venezuela. 4 camions chargés d'aide ont tenté de forcer le passage. L'un d'entre eux a été incendié par la police vénézuélienne qui a tiré des grenades lacrymogènes également sur des manifestants. Au moins 42 personnes ont été blessées. Et à la frontière avec le Brésil, 2 personnes ont été tuées dans des heurts. 2 camions chargés d'aide stationnent toujours entre les postes des douanes des deux pays. Cet aveu lors de la conférence épiscopale au Vatican, l'Église catholique a fait disparaître des preuves d'abus sexuels. Plusieurs dossiers concernant des religieux coupables ont été détruits. Et c'est ce qu'a admis le cardinal allemand Reinhard Marx. Et au même moment, les associations de victimes participaient à une marche blanche près de la cathédrale Saint-Pierre de Rome. Colère de Peter Leslie, une victime américaine.
Je ne suis pas le pape François, mais si je l'étais, et que là, le cardinal Marx se levait devant moi et lançait « Je sais que nous avons détruit des preuves d'abus sexuels sur mineurs. » Je me serais levé et j'aurais dit « Qui a fait ça? Quand ont-ils fait ça? Et sont-ils dans la salle ?»
Témoignage recueilli pour Europe 1 par Virginie Riva. L'actualité sportive, le rugby, la France relève la tête après 2 défaites consécutives dans le tournoi Destination. Elle s'impose 27 à 10 face à l'Écosse. Un bol d'air pour Jacques Brunel, le sélectionneur du 15 de France.
Oui, satisfait. Satisfait du caractère qu'a montré l'équipe. On sortait d'une défaite cuisante un petit peu en Angleterre. Donc il fallait se retrouver, se resserrer, retrouver un caractère, montrer de l'envie, montrer de l'ambition. Je crois qu'on a répondu sur le terrain, même si on sait que l'équipe d'Écosse est diminuée.
Le sélectionneur du 15 de France, Jacques Brunel, au micro européen de Simon Rubin. Du football également, 26e journée de Ligue 1. Guingamp bat Angers 1 but à 0. Même score pour Amiens face à Nice. Un peu plus tôt, le PSG s'est imposé 3 buts à 0 face à Nîmes. Suite de cette journée, ce dimanche, avec entre autres Nantes-Bordeaux, Montpellier-Reims, Rennes-Marseille et puis Monaco-Lyon. La météo de ce dimanche et les températures vont un peu baisser, Valérie Darmon.
Et oui, demain matin, il fera froid presque, hein, des frontières de l'Est aux vallées d'Auvergne, de Rhône-Alpes, avec des gelées fréquentes. Et puis l'après-midi, la hausse des températures qui sera sensible tout de même sous l'effet du soleil et surtout de l'anticyclone, avec 12 à 16 degrés en moyenne, 13 annoncés à Charleville, 14 à Troyes et à Paris, 15 à Nice, à Angoulême, à Saint-Brieuc et à Lorient, 16 à Montluçon, à Bordeaux et à Nevers, 17 degrés à Brest et Toulouse, et enfin 18 à Mont-de-Marsan ou encore à Tarbes. Les hautes pressions, elles apportent toujours un temps calme et plutôt ensoleillé. Mais si vous habitez de la Bretagne aux plaines d'Aquitaine ainsi que dans le Val-de-Saône, là, les nuages bas du matin auront un petit peu plus de mal à se dissiper que ces derniers jours. Quelques nuages vont aussi remonter de Méditerranée vers les Cévennes et partout ailleurs, le soleil continuera de s'installer du matin jusqu'au soir.
Merci Valérie Darmon, vous êtes sur Europe 1. Il est minuit passé de 6 minutes, c'est la suite de la Libre Antenne avec Sabine Marin.
Europe 1, 23h, 1h, la Libre Antenne, Sabine Marin.
De cette Libre Antenne sur Europe 1. Nous sommes encore ensemble et en direct jusqu'à 1h du matin. Vous pouvez bien sûr continuer à nous appeler et à prendre la parole en appelant le 39 21 jusqu'à la fin de l'émission. Amandine et Hassan sont là, ils sont au standard, ils vous attendent. Et vous pouvez bien sûr continuer à participer par SMS en faisant le 7 39 21 et en commençant par le mot nuit.
Europe 1, la Libre Antenne. Sabine Marin.
Pascal, vous êtes toujours là ?
Oui, je suis là.
Alors, plusieurs choses. Vous savez, je vous disais tout à l'heure que chaque relation, chaque histoire, et notamment chaque histoire d'amour, est là pour nous apprendre quelque chose. Et peut-être que cette histoire d'amour pour elle est là pour lui apprendre qu'elle n'a pas encore travaillé assez sur sa blessure de trahison, qu'elle n'a pas encore soigné ça. Et peut-être que pour vous, cette histoire-là est en train de vous montrer que vous avez grandi, que vous avez fait un travail, qu'il y a peut-être des choses à lâcher en cours de route et peut-être une confiance à avoir en vous et en la vie. En attendant, il y a Jean-Jacques qui a téléphoné, qui souhaitait apporter son grain de sel, son expérience, son témoignage. Si vous voulez bien, on va prendre Jean-Jacques à l'antenne.
Avec plaisir.
Bonsoir Jean-Jacques.
Oui, bonsoir à vous, bonsoir Sabine et bonsoir Pascal.
Merci de votre appel.
Bonsoir Jean-Jacques.
Bonsoir. J'écoute l'émission. Ça fait plusieurs mois que j'ai envie d'apporter mon expérience et puis de raconter aussi mon histoire qui ressemble beaucoup à la vôtre. Et même si c'est un contexte différent, l'histoire se rapproche beaucoup et la conclusion et les questions que vous vous posez, c'est que malheureusement, et je rejoins donc Céline, c'est que si elle ne fait pas un travail sur elle-même, nous ne pouvons le faire à sa place. Et que malheureusement, même si on sent que c'est, ou même si on croit que c'est la femme de notre vie, ou si on l'aime beaucoup, même si on a beaucoup de sentiments, on n'y peut pas grand chose, quoi.
Qu'est-ce que vous avez vécu, Jean-Jacques, vous ?
À peu près la même histoire d'espionnite, pour reprendre.
Qu'est-ce qu'elle faisait ?
Relativement les mêmes choses. Et bien qu'on soit séparés, elle continue à le faire. Peut-être pour se rassurer, peut-être pour trouver des questions, des réponses à des questions qu'elle se pose depuis toujours dans sa vie. Et
vous n'avez jamais réussi à la rassurer, en fait. C'était jamais assez.
Ce n'était jamais assez.
Ouais.
Je lui avais proposé, en parlant de thérapie, je lui avais proposé aussi de faire une thérapie ensemble, peut-être pour trouver des solutions, et surtout peut-être aussi pour lui en apporter, ou que ce soit un intervenant qui lui en apporte. Ce qu'elle a refusé aussi, donc... Même s'il y a beaucoup de sentiments, même si je l'aime ou même si je l'ai aimé, ça je m'en suis jamais caché, on n'y peut pas grand-chose. À un moment donné, il faut fermer le livre et puis passer à autre chose.
Vous êtes arrivé, vous, à la conclusion que c'est pas vivable.
Je suis arrivé à la conclusion que ce n'était pas vivable. Et pour revenir à ce que disait Pascal, ce qui met un fort doute à force sur soi-même, face à ce genre de personnes-là qui ont des soucis, qui ont des problèmes, qui ont...
Des peurs, des blessures.
Ouais. Des peurs, des blessures, oui, des blessures, oui, on les connaît, Pascal les connaît, moi je connais les siennes, mais moi aussi je me suis retrouvé dans cette situation, en me disant est-ce que ça vient pas de moi, est-ce que c'est pas de ma faute, est-ce que je fais tout bien, est-ce que, et puis en fin de compte non, à un moment donné on se dit non, c'est la vision de l'autre qui finit par mettre des doutes sur nous, et puis de fermer le livre, ça nous permet aussi de se dire non, mais je suis quelqu'un qui a le potentiel de faire, d'aimer bien, voilà, sans aucun doute.
Alors depuis que vous l'avez fermé ce livre, comment ça se passe pour vous ?
Je ne l'ai pas tout à fait fermé, mais
voilà,
c'est pour ça que je réagis. Je le ferme tout doucement. C'est très difficile. Ça fait 6 mois, 7 mois, 8 mois qu'on n'est plus ensemble. Mais je le ferme tout doucement.
Si je peux me permettre, Jean-Jacques, qu'est-ce que vous appelez concrètement le fermer doucement ?
Et oui, bonne question.
Bonne question.
Concrètement, c'est quoi ?
Désolé.
Oui, fermer, c'est de réaliser que, je ne sais pas, Pascal, peut-être que vous avez le même sentiment que moi, puisque vous en avez parlé. Vous dites, voilà, vous avez 56 ans, est-ce que je peux encore aimer ? Est-ce que je suis capable d'aimer ? Est-ce que la relation que j'ai eue avec elle ne m'a pas mis des doutes sur ma faculté d'aimer ? Fermer tout doucement le livre, c'est réapprendre à se recentrer sur soi-même et connaître ses valeurs, même si, comme vous dites, on n'est pas toujours tout blanc ou tout noir. Enfin, la vie est toujours pleine de gris.
Se retrouver soi-même avant de retrouver quelqu'un d'autre. Oui.
C'est ça, oui.
Jean-Jacques, excusez-moi, je suis un peu lourd là-dessus.
Oui.
Quand vous dites le refermer tout doucement, ça veut dire que concrètement, vous la voyez quand même de temps à autre.
Non. Non, je la revois plus, mais après, c'est non, je la revois plus.
C'est dans votre esprit alors que les choses se font doucement.
C'est, voilà,
mais concrètement,
la
rupture a été annoncée.
La rupture est annoncée, oui.
D'accord. Je crois que c'est ça que Pascal voulait savoir, en fait.
Oui. Même si, bon, c'est un autre contexte qui est plus difficile. C'est pour ça qu'à un moment donné, je voulais appeler aussi et raconter mon histoire, mais parce qu'elle a été le déclencheur pour que j'appelle. mais oui, refermer tout doucement le livre, même si on ne se voit plus. Après, il y a un travail sur soi-même.
Il y a un temps, oui.
Il y a un temps, bien sûr.
Effectivement, ce travail-là est peut-être plus intéressant que de retourner tout de suite sur un site de rencontre. Vous voyez, oui, Pascal, on a plusieurs messages qui viennent d'arriver aussi. Caroline qui dit « Pascal a peur de la solitude, or il ne devrait pas. Il doit d'abord se retrouver lui. » Pascal qui d'ailleurs nous dit, Caroline qui nous dit « J'ai 56 ans, je suis récemment célibataire. » 3 petits points. « Attention aux prisons qui ne sont qu'en plaqué or. Ne vous laissez pas enfermer, vous ne trouverez aucun épanouissement. »
Non, mais je suis bien d'accord avec toi.
Après, voilà, on va pas, excusez-moi, on va pas jeter la pierre à Pascal parce qu'il retourne sur un site de rencontre.
Non, mais ce que vous disiez est important, Jean-Jacques, se retrouver soi-même, et je pense que Pascal le fait déjà très très bien avec le travail qu'il fait sur lui, ça permet ensuite de rencontrer quelqu'un qui est en phase, de ne pas reproduire la même histoire avec les mêmes problèmes.
Ouais, après, ma psychologue, je l'ai vue que 3-4 fois, enfin 4 fois, en fait, c'est surtout sur la gestion de l'alimentation qui était liée au stress, mais forcément, vous allez chez une psychologue, vous racontez votre vie.
Et, oui, tout était un peu mélangé, bien sûr.
Et je dirais que, enfin, vous savez mieux que moi, Samy, tout est en interaction.
Bien sûr.
Mais après, faire un travail sur soi, moi, je ne me vois pas aller prendre rendez-vous chez un psy pendant 3 ans pour...
Mais il n'est pas question de le faire pendant 3 ans. Je pense que quelques séances vous feraient du bien pour reprendre confiance en vous et en la vie et en l'avenir. C'est plusieurs fois que vous me dites « il n'y aura plus personne derrière ». C'est là où je dis qu'il y a un travail à faire. Bien sûr qu'il y aura quelqu'un derrière. Pourquoi voudriez-vous qu'il n'y ait plus personne?
Mais après, moi, j'ai une vision très cartésienne des choses. Vous savez, Sabine, on est dans un monde d'images. Moi je le vois, j'ai une expérience des sites de rencontres, je me suis inscrit pour la première fois en 2013 et j'ai vu le gap qu'il y a aujourd'hui entre 2013 et 2019 sur un site de rencontre qui est très bien connu aujourd'hui. La méthode de contact aujourd'hui, elle est très simple. C'est-à-dire que quand vous envoyez un message à quelqu'un, enfin à quelqu'une, la personne, elle a 2 boutons, répondre ou décliner l'invitation. C'est très facile d'appuyer sur le bouton décliner l'invitation. Il y a 3-4 ans, quand une personne ne vous répondait pas, vous pouviez continuer à discuter. Et au bout du compte, parfois, vous accrochiez une discussion qui faisait que ça débouchait sur le concret. Là, aujourd'hui, dans les sites de rencontres, je ne vais pas refaire le débat, il est trop tard sur ça, mais on est sur l'effet catalogue. C'est-à-dire que les gens
feuillettent
un trombinoscope. Voilà.
Pascal, il n'y a pas que les sites de rencontres pour rencontrer des gens dans la vie.
Oui, mais je sais, Sabine, mais quand vous rentrez du boulot le soir, où il y a les salles de sport, il y a les after-work, il y a ceci, il y a cela, mais il faut avoir le temps, mais il faut surtout avoir l'énergie, quoi.
Oui, il me semble qu'il y a des activités qui peuvent être sympas, où on rencontre aussi des gens.
Ouais.
Jean-Jacques, j'ai votre fiche avec votre âge, vous êtes un petit peu plus jeune que Pascal, quelques années de moins.
Oui, quelques années.
Par quel biais vous rencontrez les femmes, vous? Si vous me dites site de rencontre, alors là je pleure.
Je les ai tous faits. Je plaisante. C'est la question. Donc non. Oui, allô.
Oui, on est tout d'accord. Oui.
D'accord.
On est suspendu.
J'ai plus de bruit de fond.
C'est ça. J'ai la feuille avec le crayon de Jean-Jacques. Hein, donc je note.
Très bien. Je donnerai par en privé les noms des sites. celle qui est au cœur du débat, ou en tout cas du bien, je ne l'ai pas rencontrée sur un site de rencontre. Je n'y suis jamais trop allé. J'y suis allé, oui. Pascal parle de matchs ou de je vois très bien à peu près les sites. C'est pas mon fort, donc évidemment les personnes que j'ai rencontrées, je les ai pas rencontrées sur les sites.
Là, où est-ce que vous les avez rencontrées?
Dans la vie de tous les jours. Entre ma dernière séparation et celle que j'ai connue qui me fait tant de souffrance, il est passé 2 ans avant que je rencontre quelqu'un.
Et chez vous, il n'y avait peut-être pas cette peur de rester seule?
Non. Non, et au contraire, après ma séparation, je suis resté 10 ans avec une personne, ça m'a fait du bien aussi de me retrouver et de faire ma petite vie. Voilà, ça m'a pas... La solitude ne m'a pas manqué. Ne m'a pas pesé, je veux
dire. Ne m'a pas pesé. Attention au lapsus, hein, Jean-Jacques.
oui, oui. C'est vrai.
Sinon, sinon on va relancer une conversation avec vous.
On n'est pas là pour faire ma psychanalyse.
Bon, dites-moi, Pascal, au fil de cette conversation, vous en êtes où maintenant, dans le fond de votre cœur, si vous n'écoutez que votre cœur, qu'est-ce que vous vous dites?
Je peux pas écouter que mon cœur. Je suis obligé d'écouter mon cœur et mon cerveau.
Quand les deux sont alignés, la réponse est correcte.
Ouais, mais vous savez mieux que moi que c'est pas si simple que ça. Si je suis cartésien, si je suis analytique, il faut que je ferme la porte. Je dirais que il n'y a pas d'issue. Parce que quelque part, quand bien même cette personne fera un travail sur elle et que moi je mets de l'eau dans mon vin et que je sois hyper vigilant et surjouer le fait de rassurer, au bout du compte, est-ce que c'est pas des efforts incommensurables qui sont demandés? Et où serait la sérénité là-dedans?
Ok, donc le cerveau dit non, le cerveau dit stop.
Et le cœur dit ça me manque, mais quelque part, est-ce que c'est pas les bons moments passés qui manquent? Et est-ce que si demain ou dans 30 minutes une auditrice d'Europe 1 m'appelait et que ça matche au téléphone, est-ce qu'au bout du compte je ne dirais pas assez rapidement cette personne, j'en sais rien.
Le cœur n'est pas si catégorique que ça de l'autre côté finalement,
hein. C'est une grosse question sur laquelle je suis moi incapable d'apporter une réponse. Voilà, si je me suis permis d'appeler Europe 1, c'est que j'étais arrivé au bout du bout de ma réflexion et que je souhaitais avoir un autre éclairage, un autre prisme de vue sur ma situation.
Oui, vous souhaitiez peut-être aussi qu'on prenne la décision pour vous, ce qui n'est pas du tout le but. Hein.
Non, pas prendre la décision pour moi, parce que ça, c'est juste pas possible, mais d'apporter des clés qui pour moi auraient été inattendues et sur lesquelles j'aurais pas forcément entrevu le contenu. Voilà, c'est ça aussi l'avantage d'avoir des regards extérieurs et si possible objectifs, même si on sait que dans ces affaires-là, rien n'est objectif, tout est partisan.
Oui, enfin, ce qui est assez objectif et clair, c'est qu'elle a quand même une grosse blessure et que ça fausse la donne. Ça, Jean-Jacques vous l'a expliqué, je vous l'expliquais aussi, vous l'aviez déjà compris.
Ouais.
Ça, c'est du factuel. Hein. C'est pas assez.
Je comprends ce que vous
dites. Et si vous voulez, et c'est pas lui faire injure que de dire ça, et je pèse mes mots, et je sais que ce que je vais dire là, ça va pouvoir faire bondir certains, mais je me dis. Est-ce qu'au bout du compte, on peut définitivement être amoureux de quelqu'un qui est malade?
C'est exactement la question que je me pose.
Oui, c'est ce que disait Jean-Jacques tout à l'heure en disant « ça n'est pas mon rôle de la soigner ».
J'ai mes torts, il n'y a pas de souci. Mais encore une fois, c'est le côté réactif. Je fais une dernière parenthèse, mais le 12 février, j'ai contacté. C'est une fille que j'avais rencontrée sur un site de rencontre, mais qui est quelqu'un et qui est devenue quelque part une copine. Et j'ai pris contact avec elle, on a discuté, et au moment on a raccroché, et dans les 3 minutes qui ont suivi, elle se faisait appeler par ma compagne.
Oui, mais ça, on a compris, Pascal. Le schéma se répète en boucle. Quelle que soit la situation, bien sûr, vous sentez fliqué.
C'est pour ça que je dis malade, parce que je pèse mes mots. Alors, voilà. Et moi, je suis pas thérapeute. Je ne connais pas l'ampleur de cette maladie. Je ne sais pas si ça peut être géré dans le temps.
Non.
Mais aujourd'hui.
Non. Ça, voilà, je vous l'ai dit, ça ne va pas disparaître tout seul, ça n'existe pas, ça, c'est pas possible.
On dit sur ce que vous avez dit, Samy. Voilà, c'est quelque chose qui ne peut que
qui est exacerbé, quand il irait, et jusqu'où, jusqu'à quel niveau.
Elle montra le curseur de plus en plus haut.
Voilà.
Malheureusement.
Ça peut être dangereux.
Maintenant, pour terminer cette conversation, Pascal, voilà. Je pense que quand on n'arrive pas à prendre une décision, c'est que c'est peut-être pas non plus le moment. Mm-hmm. Quelquefois, quand on n'arrive pas à la prendre, mm-hmm. c'est que peut-être à quelques jours près, à quelques semaines près, c'est que ça n'est pas le moment. Maintenant, mm-hmm. moi, j'ai tendance, à, en vous écoutant, là, en apprenant à vous connaître, à avoir l'impression qu'elle est quand même quelque part déjà prise, la décision.
Difficilement.
Certes, mais j'ai pas l'impression que vous allez faire machine arrière.
Difficilement. Difficilement.
Laissez-vous peut-être encore un petit peu de temps. Si c'est pas le moment, si vous n'arrivez vraiment pas à refermer le livre, comme le dit joliment Jean-Jacques, c'est que c'est peut-être pas le moment. Ça sera peut-être le moment dans 15 jours, dans un mois, dans 6 mois, je sais pas. Mais il me semble non, quand même que c'est vers ça que vous allez. Hein.
Ouais, mais c'est l'enseignement que j'ai tiré de notre longue conversation et je vous en remercie et je remercie aussi l'ensemble des auditeurs d'Europe 1 qui ont bien voulu apporter leur éclairage et Jean-Jacques.
On a du temps ce soir, on est en période de vacances, je vous avoue qu'on n'a pas énormément de gens qui attendent, c'est pour ça que je me permets de prendre du temps avec vous.
Et Sabine, je vous rappelle, je suis un abonné.
Oui, en plus, vous avez le forfait maintenant.
C'est gentil. Non, non, mais je pense que le principal enseignement, il est déjà celui-là, et c'est déjà précieux, et c'est déjà important, c'est de ne pas réagir à chaud.
Et oui, quelquefois, c'est juste ça, se dire que si j'y arrive pas, c'est que c'est pas tout de suite la décision à prendre. Mais avec des petites graines qu'on a semées tous ce soir dans votre esprit qui vont germer. Merci Jean-Jacques de votre appel, de votre coopération.
Merci à vous.
N'hésitez pas à me rappeler un soir si vous avez envie qu'on parle, j'ai cru comprendre qu'il y avait d'autres dossiers en cours.
Oui, celui-ci est très important. Il est très lourd.
Merci en tout cas de votre appel.
Merci à vous.
Au revoir,
bonsoir Pascal et bonne
merci décision. Jean-Jacques. Si jamais vous voulez me rappeler, s'il y a des auditeurs qui veulent m'appeler, il n'y a pas de problème.
Alors, ce qu'on va faire, c'est je vais vous quitter tous les deux.
D'accord.
Je vais vous quitter tous les deux et Amandine qui...
Encore un abandon.
Oh, quelle horreur. mais moi, vous savez que vous pouvez revenir quand vous voulez.
Je crois que c'est la... C'est l'étoile de ma soirée.
C'est gentil. Ne quittez pas ni l'un ni l'autre. Amandine va vous mettre en relation hors antenne, d'accord?
D'accord.
Je vous embrasse tous les deux.
Merci.
Au revoir.
Merci,
la libre antenne sur Europe 1. Sabine Marin.
Bonsoir à vous, Nadia.
Bonsoir, Sabine.
Ah, Amandine avait raison. Elle m'a dit, tu vas voir, elle a une très jolie voix.
Ah, je vous remercie.
Bienvenue sur cette libre antenne.
Merci beaucoup.
Dites-moi un petit peu ce qui vous amène.
C'était pour dire à Pascal que je comprends sa façon de voir les choses, parce que c'est vrai qu'arrivé à 55 ans dans ces eaux-là, on n'a pas la même vision. Qu'à 40 ans ou à 35, effectivement, il y a comme une pression, il y a comme, même sans faire une fixation là-dessus.
Une
peur, le temps passe vite, on s'en rend compte. Mm-hmm. Et c'est vrai que ça fait songer à bien des choses et on ne voit pas les choses de la même
manière,
façon.
Ouais.
Quoi.
Racontez-moi un peu votre histoire. Vous avez été mariée?
J'étais pas mariée, mais j'étais avec une personne pendant 13 ans, le père de mon fils d'ailleurs. Et au niveau de la confiance, c'est un petit peu difficile. Je comprends certaines réactions également parce que, en fait, moi, j'ai été laissée en une heure de temps, vous voyez.
Ah oui. Qu'est-ce qu'il vous a dit?
Oui.
Si tant est qu'il vous ait dit quelque chose, d'ailleurs.
Qui pétait les plombs.
Oui, d'accord.
Donc, oui, voilà.
Ah, c'est un peu brutal. Et... Vous avez quel âge à ce moment-là?
J'avais 35 ans à peu près.
Ouais. Et vous n'aviez rien vu venir?
Absolument pas.
Ouais.
Et nous n'étions pas un couple à nous fâcher, à nous disputer, tout semblait... Enfin, moi, je faisais entièrement confiance.
Ouais. Est-ce qu'avec le recul, vous avez su s'il y a eu quelque chose qui s'est passé, quelqu'un, une raison cachée ?
Non, je ne l'ai pas su, mais j'ai imaginé, oui, qu'il devait y avoir une pression quelconque pour que d'un seul coup, sans savoir pourquoi... il décidait de quitter sa famille, quoi.
Oui. Mais là, j'allais vous dire, Nadia, c'est le problème de confiance, c'est pas un problème d'âge, c'est un problème d'expérience de vie. Quand on a vécu ça, il y a de quoi perdre confiance après.
Oui.
Et oui, forcément.
Oui.
Il y a de quoi perdre ses repères, il y a de quoi être fragile après, quoi.
Tout à fait. Et il est vrai que dans ces cas-là, après la confiance, on a un peu de mal avec. Hein.
Oui, c'est normal.
Sauf
qu'il faut faire un travail là-dessus et bien vous dire que toutes ces choses négatives, ça vient de lui, ça vient pas de vous. Hein. Ça n'enlève rien. Son comportement à lui n'enlève rien à votre valeur à vous.
Tout à fait, mais en fait, on se pose quand même des questions par le fait. On se pose des questions.
Surtout quand c'est pas clair comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'aurais dû faire?
Oui, qu'est-ce qui s'est passé, surtout? Qu'est-ce qui se passe? C'est très difficile. Et après, c'est vrai qu'on devient beaucoup plus méfiante pour les relations suivantes, quoi.
Comment est-ce que vous avez surmonté cette période-là? Qu'est-ce qui vous a fait tenir debout?
Mon fils.
Oui.
Mon fils, ah oui. J'ai tout misé, d'autant plus que j'étais sans emploi à ce moment-là. Oui, j'avais eu un licenciement économique et puis...
C'est délicat de vous avoir lâché à ce moment-là.
Ah oui, oui. Alors, forcément, j'avais tout à, d'un seul coup, tout à gérer dans l'organisation entre la recherche d'emploi.
J'imagine un déménagement forcé ou une réorganisation interne, en tout cas.
Oui, tout à fait, complètement. Ouais. Tout est chamboulé, mais bon... on tient et mon petit bonhomme m'a fait tenir. Hein.
Il a quel âge aujourd'hui, cet ex-petit bonhomme?
Ah, maintenant, c'est un grand bonhomme, il a 27 ans.
Bon, il va bien.
Oui.
Vous avez réussi votre mission de maman?
Oui, j'ai réussi cette mission de maman, oui.
Ça devrait déjà vous donner confiance en vous, ça?
Oui, mais en fait, j'ai mis ma vie de femme entre parenthèses pendant toutes ces années. Je ne voulais pas... J'ai eu bien sûr des relations, mais longtemps après.
Et est-ce qu'il y a eu quelqu'un quand même qui a compté après?
Oui, on va dire... oui, bien sûr, mais... Où je me suis rendu compte que c'était pas de personne fiable, donc... Oui, donc...
Une petite tendance à reproduire le même schéma?
De la part de qui?
Bah de vous remettre, d'être attiré à nouveau par quelqu'un qui est susceptible de vous lâcher?
Là, c'était pas le même genre du tout. Mais par contre, comment dirais-je, je sentais, si vous voulez, je suis très observatrice par nature et je sentais qu'il était, qu'il y avait quelque chose, quoi. Et en fait, je me suis rendu compte que je lui ai tendu quelques pièges comme ça. Et où je me suis rendu compte qu'il me montait, quoi.
C'est-à-dire, il n'y avait pas quelque chose, il y avait quelqu'un, non?
Je ne sais pas s'il y avait quelqu'un, mais en tout cas, il y avait du mensonge. Oui, beaucoup de mensonges. Et j'avoue que c'est quelque chose que je n'accepte pas, parce que je suis quelqu'un de très entier. Donc, c'est vrai que... je suis devenue méfiante par rapport à mon passé, Mais, comment dire, j'ai cherché à gratter un petit peu, si vous voulez, pour voir jusqu'où cette nouvelle personne pouvait aller dans le mensonge, quoi.
Oui, donc c'était pas quelque chose d'épanouissant non plus.
Du tout.
Et aujourd'hui, vous en êtes où?
Je sais pas si c'est inconscient, hein, mais je ne cherche personne. J'avoue que je pense parfois à me dire bon, c'est bien quand même, c'est mieux quand on partage avec quelqu'un. Mm-hmm. Mais je préfère être seule et bien dans mes baskets plutôt que d'avoir à être avec quelqu'un et me poser un tas de questions, en fait.
Il y a Christiane qui envoie un SMS qui dit « Vous savez, l'amour n'a pas d'âge, vous rencontrerez la bonne personne quand le moment sera venu. »
Oui.
Et concernant, concernant le témoignage de Pascal et un peu le vôtre aussi, il y a Jeanne qui nous écrit un très joli message. Pour Pascal, elle dit « Je vous donne une clé. » Fermez ce livre, posez-le sur une étagère et laissez faire le destin, avec moins de questions et avec le sourire, dit Jeanne. Et c'est vrai que quelquefois, ça, je fais référence un peu à Pascal qui a témoigné avant vous, quand on se pose trop de questions, on finit par ne pas prendre le temps d'écouter les réponses.
Oui, c'est exact.
Et c'est aussi pour ça que la solitude a quelque chose d'intéressant, même si elle n'est pas toujours facile, bien évidemment, c'est qu'on peut prendre le temps d'écouter, de s'écouter.
Oui.
Quand on est face à l'autre, on a milliards de questions, mais on ne prend pas toujours le temps de bien écouter ses réponses. Et c'est là où je vous rejoins, finalement, être seul, mais être bien, comme vous dites, j'aime bien l'image, bien dans mes baskets.
Oui.
Ça veut dire que le prochain, ce n'est pas quelqu'un dont vous aurez besoin, mais quelqu'un dont vous aurez envie.
Tout à fait.
Et ça, c'est quand même plus sympa.
C'est tout à fait vrai, Sabine.
Et de manière générale, quand on est dans l'envie et pas dans le besoin, on rencontre des gens qui sont au même niveau d'évolution que nous. À un moment donné de la vie, bien sûr. Et donc, avec qui ça se passe mieux? Parce qu'on n'est pas là, on n'est plus dans une réparation. On est dans une construction. Et là, dans les relations comme celles que Pascal mentionnait tout à l'heure, ils sont chacun dans une réparation. Et ça, c'est rarement faisable.
Oui, ça paraît compliqué. Hein.
Et oui. Donc, prendre le temps de se retrouver soi, de se connaître soi, de savoir ce qu'on est, de redorer son blason de la valeur et de la confiance, aham, aham. Oui. Se dire chaque jour, j'ai de la valeur, je suis quelqu'un de bien, j'ai confiance en moi. Vous savez que la façon dont on se parle à soi-même est extrêmement importante aussi. Si l'autre ne m'a pas donné une image de confiance, alors je me la donne moi-même.
Oui.
C'est pas pour rien qu'on dit, vous savez, prendre confiance en soi. Est-ce que ça vous viendrait, Nadia, à l'esprit un matin de vous réveiller et d'aller voir quelqu'un en lui disant « Écoute, j'ai bien réfléchi, t'as le droit d'avoir confiance, allez, je te donne ta confiance, prends-la. » Non, bien sûr que non.
Non.
Vous voyez venir, de la même manière, personne ne viendra vous dire un jour « Allez, j'ai réfléchi, t'as le droit d'avoir confiance en toi. » Et non, c'est à vous de la prendre, cette confiance.
Oui, même si c'est pas toujours facile.
Je ne dis pas que c'est facile, c'est un chemin. Mais vous savez, il y a beaucoup de gens qui souffrent de ce qu'on appelle toujours le complexe de la légitimité. « Je me sens pas légitime. » C'est exactement la même chose. Tant qu'on attend la confiance et la légitimité d'un autre, croyez-moi, on peut attendre longtemps. Quand on comprend que c'est à nous de l'apprendre, alors on grandit beaucoup plus vite d'un seul coup.
Oui.
La confiance en vous, personne ne viendra vous la donner, c'est à vous de l'apprendre.
Oui, c'est tout à fait vrai.
Regardez-vous chaque matin dans le miroir en vous disant « je suis quelqu'un de bien ». J'ai confiance en moi, j'ai confiance en la vie, j'ai confiance en ma vie. Et commencez la journée avec le sourire. Et vous verrez qu'au fil du temps, les choses changent. Et les gens que vous croisez sont plus les mêmes, comme par hasard.
C'est vrai. Au même titre que lorsque on s'ouvre aux autres, j'ai remarqué que le contact se fait beaucoup plus facilement.
Et oui, vous avez remarqué ça.
Oui, moi je l'ai remarqué. Il y a des jours où vous avez la tête assise à ça, et en fait, par rapport aux gens, bon, il n'y a pas forcément, c'est pas forcément une journée avec des contacts. Et puis, il y a des moments où vous êtes bien. Vous avez l'impression que les gens le découvrent aussi. Oui. Vous découvrent comme ça. Et puis, donc, les contacts sont. Enfin, moi, ça, je l'ai constaté à plusieurs reprises. Le contact se fait mieux.
Et la seule chose sur laquelle nous avons tout pouvoir, ce sont nos pensées. Il faut surveiller nos pensées qui deviennent nos actes, vous le savez, nos paroles, pardon, nos pensées deviennent nos paroles deviennent nos actes deviennent notre vie.
Oui.
Donc petit à petit, quand on change nos pensées, quand on les amène vers des choses positives, alors nos paroles deviennent positives et nos actes aussi. Et notre vie devient plus lumineuse.
Oui, c'est joli.
Et c'est vrai. C'est pas de moi, je vous rassure. Je crois que c'est Gandhi qui a dit ça à l'origine. Mais c'est tellement vrai.
Oui, mais c'est vrai. Et c'est très joli, oui.
Merci Nadia de votre appel.
Merci beaucoup Sabine.
Je vais vous dire une dernière chose. Oubliez l'âge. De toute façon, ce ne sont que des chiffres et ça change tout le temps.
Oui, ça c'est vrai.
On s'en fiche.
Oui, tout à fait. Il n'y a pas de quoi s'attarder dessus. Hein.
Exactement, c'est pas ça qui compte. C'est ce qui est à l'intérieur qui compte.
Tout à fait.
Merci Sabine. Merci à vous de ce joli sourire, Nadia. Je vous embrasse.
Merci infiniment pour votre émission.
C'est gentil. Au
revoir. Et pour votre gentillesse. Au revoir.
Merci à vous, Nadia. Au revoir.
Merci beaucoup. Au revoir, Sabine.
Europe 1, la libre antenne. Sabine Marin.
Et nous avons beaucoup parlé d'âge ce soir. Je ne donnerai pas le sien, mais ce soir, sachez que c'est l'anniversaire de ma douce Amandine. Et que toute l'équipe de la Libre Antenne se joint à moi pour lui faire un gros bisou. Bon anniversaire à toi, Amandine. Je t'embrasse très très fort. Et je pense que les auditeurs aussi. Bonsoir Jean-Claude.
Oui, bonsoir Sabine.
Alors nous allons terminer cette émission tous les deux. Amandine m'a dit que vous aviez des choses intéressantes à raconter. Je vous écoute.
Merci beaucoup. Voilà, la question que je me pose, c'est que tout être humain qui passe de l'enfance à l'adolescence à l'âge adulte emporte avec lui des manques. Que sa recherche, enfin la recherche de cet être humain dans une espèce, dans cette recherche affective, je suppose que cette recherche affective correspond inconsciemment à ce manque qu'on peut ressentir. Mais est-il possible que d'être en face d'une espèce de solution, on puisse finalement la refuser ? C'est-à-dire qu'on préfère ce manque plutôt que de rencontrer la personne qui va justement combler ce manque.
Alors, je vais reprendre les choses dès le départ.
Oui, c'est compliqué.
Non, je comprends ce que vous voulez dire. Simplement, quand vous parlez de manque, moi, je pourrais plus tendance à parler de blessure. On ne porte pas avec soi des manques, on porte avec soi toutes les blessures, dont la première séparation d'avec maman, c'est ce que vous direz tous les psys.
Oui.
Cette première séparation qui était une forme d'abandon. Plus
oui.
tous ceux qui s'en suivent, la vie est une succession d'abandons.
Oui.
Le problème est de savoir si on est suffisamment armé pour les accueillir comme quelque chose de normal et comme une évolution ou pas. Donc
oui.
selon la stabilité émotionnelle et qu'on a eu la chance ou pas de vivre petit, les apprentissages ne sont pas de la même manière.
Oui, ça, je crois que le temps est important, une certaine maturité, je ne sais pas quoi, une conscience, l'ouverture d'une conscience.
Après, vous me dites, chercher chez l'autre... De quoi se réparer ? Et là, je ne suis pas d'accord du tout avec ça.
Ah,
c'est en soi
mais...
qu'on doit trouver ça, ce n'est pas l'autre qui vient réparer
oui,
ses blessures.
Je suis complètement d'accord avec vous, mais quand, plutôt la question c'est, est-ce qu'on a conscience ? Je sais que c'est inconscient ça, mais c'est pas une recherche consciente de trouver quelqu'un qui nous répare nos blessures ou comble ce manque, mais... Moi, je me suis trouvé dans deux longues relations comme ça, chez qui j'avais rencontré, parce que ces femmes avaient exprimé cette blessure d'enfance, mais se retrouver dans la relation avec moi, j'ai très nettement eu l'impression qu'il y avait une fuite de cette rencontre, que ces personnes, finalement, préféraient leur blessure, leur manque, à la relation, entre guillemets, la solution. Mais j'ai l'impression qu'on peut parfaitement aussi fuir cette possibilité de solution.
Mais parce que c'est pas une solution, Jean-Claude, c'est ce que je suis en train de vous dire.
Oui, c'est quoi ?
L'autre n'est pas une solution. L'autre éventuellement est un pansement.
Oui, bon, ben, parlons de pansement.
Est-ce que ça suffit vraiment un pansement quand la blessure est profonde?
Ah là, je ne sais pas du tout, parce que j'ai l'impression de m'être moi-même retrouvée dans cette... comment on dit?
Dites-nous plus un petit peu sur cette histoire, alors.
Voilà, j'ai vécu une longue relation avec une femme qui m'avait exprimé ses blessures d'enfance. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'elle m'exprimait quelque chose comme « je n'ai pas été aimé, je n'ai pas été regardé, je n'ai pas eu d'importance de la part de mes parents », alors que moi, mon comportement, quand je suis amoureux, je suis extrêmement attentif à l'autre, je l'écoute, je la regarde, je réponds.
L'autre est importante, du coup.
Ah, mais très, très, très
elle
important.
Elle trouve sa place.
Voilà. Mais cette personne a refusé jusqu'aux dernières heures de sa vie de s'abandonner vraiment à la personne qui était en face d'elle. Donc, j'ai plutôt ressenti comme un refus d'ouvrir les yeux, quelque chose comme ça.
Ah, c'est difficile de dire ça. Moi, on ne connaît pas l'histoire, on ne sait pas ce qui se passait entre vous, mais quelquefois oui. Quand la blessure est tellement profonde,
oui.
Je dis une fois de plus, un pansement ne suffit pas. On peut désespérément ne pas trouver sa place,
oui.
Même si on a un compagnon qui fait tout ce qu'il faut pour.
Oui, oui. Bah, c'est bien ça que j'ai ressenti, et j'ai ressenti vraiment une impossibilité d'aller au-delà
de l'aider plus, ouais.
Voilà, de quelque chose. Bon, alors pendant un moment, j'en ai évidemment culpabilisé.
C'est ce que j'allais vous dire, voilà, il y a une phase de culpabilité en se disant c'est de ma faute, pourquoi j'y arrive pas.
Voilà. Mmh. Bon, après, j'ai compris que nos pouvoirs, les pouvoirs de l'être humain étaient limités à nous-mêmes. Et donc, je me suis aperçu après ça que si je n'y arrivais pas, entre guillemets, moi-même, je transportais un certain refus d'accepter des événements positifs.
C'est possible aussi. Quel âge avez-vous, Jean-Claude, si ce n'est pas indiscret?
56 ans.
Oui, vous avez
une longue vie.
Oui, une longue vie, et puis une recherche aussi de comprendre les choses qui est intéressante. Je suis assez heureuse et surprise. Ce soir, on a eu beaucoup d'hommes, et
oui.
Beaucoup d'hommes qui travaillent sur eux.
J'ai entendu à moitié les intervenants avant moi, Pascal et Jean-Jacques par exemple, mmh. Et je trouvais une certaine similitude dans nos réflexions.
Oui, tout à fait. C'est assez rare d'ailleurs qu'on ait autant d'hommes qui appellent et autant d'hommes qui sont en recherche, en travail de compréhension.
Ben, j'ai l'impression que ça correspond à l'évolution de l'être humain en général, que maintenant on s'intéresse beaucoup plus à l'intériorité, malgré un développement parallèle de l'image, de l'importance de l'image dans la société. J'ai l'impression que parallèlement à ça se développe une conscience plus intérieure.
J'allais vous dire, c'est paradoxal, et en fait non, c'est principalement parce qu'on est tous dans ce face à un vide.
Oui,
parce
oui,
qu'effectivement
oui.
L'image a tellement pris le dessus que ce vide est tellement abyssal. Qu'on
maintenant,
a compris que ce n'est pas par là qu'il fallait les chercher. Quoi.
Voilà, maintenant ça paraît plus évident, peut-être.
Mmh. J'espère de plus en plus que ce le sera, parce que c'est la meilleure clé, se connaître soi-même, être
oui.
Bien avec soi-même, c'est la seule clé pour être bien avec les autres.
Mais j'ai l'impression que c'est le chemin le plus difficile, à se connaître soi-même, parce qu'au fur et à mesure qu'on développe notre conscience, on comprend qu'il n'y a rien de permanent. Donc celui qu'on était hier, on n'est plus le même aujourd'hui, et encore moins celui d'après-demain. Mais j'ai l'impression qu'en réfléchissant sur ce que vous venez de dire, là, c'est plus profond que ça, etc., ce refus d'admettre que ce pansement, ça peut prendre encore plus de temps, j'ai l'impression, du coup. Moi, j'ai souvent eu l'impression que ça y est, j'avais grandi, j'étais plus mature, etc. Mais d'après ce que vous me dites, vous êtes en train encore de repousser le moment, quoi, en disant c'est peut-être plus profond que ça, etc. Donc, il y a peut-être une obligation d'atteindre un certain moment, un certain point, une certaine volonté de rechercher dans les profondeurs de soi-même, où est-ce que ça se cache, ces choses-là. Et je suppose que les antécédents, c'est-à-dire les parents, nous ont passé aussi une certaine part de leur recherche, de leur, de leur blocage.
Inconsciemment, bien sûr, oui.
Voilà, et que nous, les enfants de ces parents-là, c'est un peu comme si nous avions un relais à porter, à aller plus loin qu'eux, etc.
Notre rôle est de faire mieux dans chaque génération.
Ah ça, alors là, c'est la question, je me dis, est-ce possible ?
En tout cas, il faut essayer. Moi, je me dis toujours, vous savez que chaque jour est un nouveau départ.
Oui, c'est vrai, c'est
chaque,
vrai.
Chaque matin commence comme si j'étais un enfant, avec tout à apprendre toute la journée.
Oui, mais ça, on n'y pense pas forcément quand on ouvre les yeux, quand on se réveille. J'ai l'impression que les choses se passent d'une manière un peu à notre insu et que, bah, par exemple, des émissions comme celles que vous animez nous permettent à chaque fois de pousser le bouchon un peu plus loin, peut-être, à travers les questions que j'entends dans votre émission, les réponses que vous y apposez aussi. C'est une façon de soi-même de continuer cette recherche et, comme vous dites, de faire mieux chaque jour.
Eh bien, vous savez quoi, Jean-Claude ? Ça va être le mot de la fin parce qu'il me reste 45 secondes pour vous dire au revoir. L'émission se termine.
Bon, ben,
merci,
alors
merci de ce témoignage, en tout cas.
Bon, ben, je vous dis au revoir et je souhaite un bon anniversaire à Amandine.
C'est gentil, je vous embrasse. Merci de votre appel.
Moi aussi, au revoir.
Merci à vous, Jean-Claude. Merci à Jean-Jacques, à Nadia, à Pascal pour tous ces témoignages extrêmement sincères ce soir. C'était très touchant. Merci à vous tous pour vos SMS. Je vous quitte avec un sourire, avec un bisou, avec une citation aussi. Souvenons-nous que chacun de nous trébuche. Voilà pourquoi il est si réconfortant de marcher main dans la main. Je vous retrouve demain soir à partir de 23h sur cette libre antenne. D'ici là, nous restons en contact sur ma page Facebook Sabine Marin. Passez une bonne nuit et à demain.